question est, comment on voit Achitophel? Achitophel était le maître de David Hamelech, et on voit qu'il a trahi David, il a donné des conseils à Shaoul comment faire pour retuer David. Comme un homme de calibre pareil, peut-il faire le mal? Bon, ça veut dire que le mal est très grand. Ça veut dire, on voit dans l'histoire une série de personnages extrêmement grands qui néanmoins se sont plantés royalement. Prenons par le premier homme, déjà pas mal. Après Caïn. Après Noach aussi, d'après certains avis, il aurait dû faire un peu plus pour les gens de sa génération. Il n'y aurait pas eu le déluge. S'il sort du déluge, il va et il plante une vigne et se saoule. Ensuite, on a Ishmaël, fils d'Abraham. T'as comme père Abraham, tu tournes comme ça au vinaigre. Esav. Korach. Korach est le cousin de Moshe. C'est même qu'il avait Roi HaKodesh. Roi HaKodesh. On voit Iftar Aguiladi qui fait un vœu que la première personne qui sortira de sa maison, il va sacrifier à Dieu. C'est sa fille qui sort. On sent encore, c'est une erreur, c'est un manque d'attention. Mais on a vu des gens très grands qui ont très mal tourné. Il y avait un rabbi Yochanan Kohen Gadol, qui 80 ans était Kohen Gadol. Chaque année, il rentrait dans le Saint des Saints. C'est un niveau. Si quelqu'un n'est pas de niveau quand il rentre dans le Saint des Saints, eh ben, il ne survit pas. Il reste pas, il finit pas l'année. Et lui, 80 ans, il est rentré, sorti en paix. Donc ça veut dire que c'était vraiment quelqu'un de bien. Puis à la fin de sa vie, hop! Le Kabbaliste explique que quand on fait après la prière, quand on fait le. Il fait l'atapaim. David, l'Echanam Sheessa. Après qu'on a fait Yag Midot, Kel, Rahum, Vehanun, etc., on s'assied tous. Et nos frères Ashkenaz, ils mettent leur face dans le. Comme ça, sur le bras, et c'est très dangereux de pas. Il faut pas mettre sur la main. Parce que dans le corps. Le bras, c'est une chose, la main, c'est beaucoup plus bas. C'est-à-dire qu'en fait, l'âme, elle descend très très bas pour aller charrier là-bas hein, toutes les étincelles de sainteté. Tu as un très haut niveau maintenant, après la prière, tu descends profondément dans les régions basses de l'univers pour aller en retirer les étincelles de sainteté. Comme ça, c'est marqué dans le Ben Yishraï. Et on dit que Rabbi Yochanan, donc, il est descendu très bas, trop bas dans ces régions-là, et son âme s'est fait happer par les forces négatives, et c'est une autre âme qui est venue à la place. On a des gens dans le judaïsme qui étaient à très haut niveau, et quand tu es à très haut niveau, il est facile. La déviation, elle ne pardonne pas. Tu roules à 20 km à l'heure. Tu peux à un moment lâcher le volant, n'est-ce pas? Tu roules à 400 km à l'heure, ça ne pardonne pas. C'est-à-dire que plus tu es rapide, plus tu es effectif, plus tu es performant. Plus la limite, l'exactitude exigée, elle est haute. C'est marqué, Nis'ara. Autour de Dieu, Nis'ara. C'est Nis'ara, ça signifie, il y a une crainte terrible, mais Nis'ara, c'est aussi du mot Se'ar signifie le cheveu. Que Dieu, il est Medakdek, comme ça dit la Gemara, Dieu, c'est un drash, c'est une expression allégorique. Dieu, il est pointu avec sa tzadikim comme l'épaisseur d'un cheveu. Et quand tu dévides d'un cheveu, ce qui est facile, alors tu pars dans les choux. Vu Shabtai Tzvi, c'était le faux Messie, c'est le seul homme sur lequel on peut dire il marche mot, que son nom soit effacé. Lui et les crucifiés sont les deux seules personnes de toute l'histoire juive qui sont des juifs à propos desquels on peut dire que son nom soit effacé. Qui prétendait être le Mashiach. Et beaucoup des rabbins de la génération sont tombés dans le panneau. Ils ont cru que c'était le Mashiach. C'était un homme d'une sagesse, d'une connaissance en Torah extraordinaire. Il y a un livre qui s'appelle Chemdat Yamim, qui contient beaucoup de textes que lui a écrit. Et il y a des sidourim encore actuels, les sidourim de Rosh Hashanah et Yom Kippour, que les gens achètent dans le marché, dans lesquels tu as des textes qui sont écrits par Shabtai Tzvi. Y compris, quand on ouvre le Echal, à Yom Kippour, à Rosh Hashanah, tu as des tas de textes comme ça, tu dis par le nom ainsi, tata, qu'il y a une lumière qui descend, tous des textes comme ça, un peu à connotation un peu kabbalistique. Il se peut tout à fait que ce sont des textes qui sont écrits par Shabtai Tzvi, qui n'était pas un petit, il était un très grand. Mais, il a dévié. À un point tel qu'à la fin, il s'est converti à l'islam. Et il a utilisé la sorcellerie, il a utilisé il a fait des pouvoirs terribles. Comment est-ce qu'on a su que c'était le faux Messie? Avant, les grands rabbins déjà savaient que c'était pas lui. Le Taz, qui était le plus grand, le plus vieux rabbin de la génération, le Taz, Gdolador, le grand de la génération, le grand sage d'Israël, il a envoyé là-bas son fils ou son gendre, j'ai oublié lequel des deux, qui revient et qui dit « Papa, extraordinaire, ne me dis rien. Comment tu l'as vu? Quand tu es rentré, qu'est-ce qu'il faisait? Quand je suis rentré, il était couché sur son dos. Il dit, c'est pas lui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de dormir sur le dos. Couche encore, ça peut aller. Et quand quelqu'un est gros, c'est marqué quelqu'un qui est très gros, alors il peut être couché sur le dos parce que c'est très dur pour lui d'être sur le côté. Un homme qui est censé être le Mashiach, il ne sera pas couché sur le dos, même pour se reposer comme ça. Il ne sera pas couché sur le dos. Il sera pas couché sur le dos. Mais papa, quand je suis rentré, je lui ai dit, j'ai encore rien dit. Il m'a dit, Rabbi, la Gemara autorise. Pour quelqu'un de gros comme Rabbi Yochanan était extrêmement gros, comme ça raconte le Talmud, de dormir, d'être sur le dos, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Donc dès que je suis rentré, il m'a dit que lui, il a autorisation spéciale. Mashiach n'a pas besoin d'autorisation spéciale. Deuxième chose que lui a dit le fils, mais papa, j'ai vu une chose extraordinaire. Il y a une délégation de gens qui sont venus de Rabbanim. Ils sont venus le voir parce que dans leur ville, il y a un grand persécuteur de juifs qui fait des choses terribles aux juifs. Ils sont venus qu'il prie, qu'il fasse quelque chose. Alors oui, il a pris une plante qui était par terre, il a déraciné, il a dit de même que maintenant je déracine cette plante, comme ça que cet homme-là soit déraciné de sa source de vie et qu'il meure. Et on a vérifié, au même moment exactement, il est mort, ce persécuteur de juifs. C'est extraordinaire. Le Taz lui dit, c'est la preuve que c'est pas Mashiach. Que c'est Mashiach, comme on le reconnaît, c'est marqué Ubisotav Yamit Racha. Par ses lèvres, il tuera le Racha. Il n'y a pas besoin de faire des actions. Action, c'est sorcellerie. Avec la bouche. La force de l'Amisraël, c'est dans la bouche. Pas besoin de faire des trucs. Tu pries. Le Mashiach, c'est une lame la plus haute qu'il y a jamais eu, qu'il n'y aura jamais dans le monde, plus haute que tout ce qu'il y a eu. Lui, quand il dit une parole, terminé. C'est comme ça qu'on le reconnaîtra d'ailleurs. Donc, cet homme-là avait comme un pouvoir énorme. Je veux dire, on avait une branche, il va qu'on fasse ça comme ça avec Nasrallah, avec Saddam Hussein, que son c'est terminé, hein. C'est pas ça. On veut plus que cela. L'exigence, elle est très haute. Juste en parenthèse, c'est une très belle histoire pour dire à quel point il ne faut pas se faire attraper dans l'histoire de sorcellerie et de. Les rabbins qui sont droits, à quel point. Ils sont pas interpellés et impressionnés par des trucs de magie. Un des grands détracteurs de Shabtai Tzvi s'appelait le Rav Sasportas, Shishportish. Et il se battait très fort contre Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi est venu dans la même ville là-bas et a voulu Shabbat. Il veut rentrer dans la synagogue du Rav Sasportas. Rav Sasportas entend cela, il fait fermer il met une barre comme ça de. Une planche comme ça pour bien fermer l'entrée de la synagogue. Shabtai Tzvi avec ses élèves viennent et défoncent, ce qui interdit Shabbat de défoncer une porte. Et entre. Et il dit, comme ça, au Rav Sasportas, si je suis le Messie, que sortent maintenant ton père et ta mère de la tombe et viennent maintenant témoigner que je suis le Messie. La porte s'ouvre, une autre porte. La porte s'ouvre, qui rentre? On voit un vieux pépé, une vieille mémé, qui rentre comme ça, tout en tremblant. Ils disent, Shabtai Tzvi est le Messie, Torato Emet. Shabtai Tzvi Emet, Torato Emet. Shabtai Tzvi, il est vrai, et sa Torah, elle est vraie. comme pas mal, comme Rav Shach Portach, il dit, il y a une mitzvah d'honorer son père et sa mère quand ils sont en vie, pas quand ils sont morts. Il prend un bâton et il leur tape dessus. Et sa grand-mère, il les tape dessus. Et tout à coup, hop, les deux se transforment en deux chiens et s'enfuient en courant. Sorcellerie. Ah, c'était une guerre terrible qu'il y avait. C'est, comprenez, c'était le sitracha, le force du mal. Ils ont, la moitié du peuple juif est parti dans les choux énormément. Tout le mouvement chassidique qui a débuté environ un siècle plus tard, un siècle et demi plus tard, pourquoi il y a eu tellement une grande opposition du peuple juif, des mitnagdim, des lituaniens contre ce mouvement. On a peur que ce soit un nouveau mouvement à tendance messianique, avec Kabbalah, machin, tout ça. Ils ont eu très peur. C'est un traumatisme au peuple d'Israël terrible.
Mais se dit que quelqu'un comme ça, qui a tous ses pouvoirs, se convertissent, s'il se passe.
Il est enveloppé par le mal. Il a des pouvoirs négatifs. C'est pas le positif qu'il avait, c'est dans le négatif.
Bon, il a été menacé par le sultan de.
Ah, oui, oui, quand le sultan. Donc il est allé maintenant à Istanbul. Il a commencé à faire là-bas, à l'époque Constantinople, il a commencé à faire là-bas du bruit, il y avait une très grande communauté, et le sultan commence à voir que la communauté juive se réveille, qu'ils ont un roi qui est venu, machin. Alors, ça commence à faire un peu des troubles dans le. Alors, amenez-le. Et ou tu te convertis à l'islam, ou quick. Et il s'est converti. Avec lui, des centaines se sont convertis aussi, se disant, si le machère se convertit, ça veut dire que c'est ça. D'autres ont dit non, on ne va pas se convertir, mais on sait pourquoi lui fait ça. C'est quand même, tu as beaucoup de tordus. Chaque génération, il y a eu des tordus qui ont fait des trucs tordus. Chaque génération, tu as des. Il y a un livre qui est sorti il y a quelque temps sur les faux messies. C'est un classique. C'est hélas un classique. Maïmonide raconte que. Il a écrit une lettre, Ygret Teman, épître aux Yéménites, au Yémen. Que les Yéménites ont justement écrit une lettre très secrètement à Maïmonide, lui disant il y a un type chez nous qui se prend pour le messie. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Alors, peut-être c'est vrai, le vrai Messie, c'est un chacham, etc. Il aura dit, par exemple, une loi, comme ça ils écrivent, que maintenant c'est marqué que le peuple juif, il est sauvé, Sion, d'accord, la terre de Sion, sera, par le Mishpat, par la loi, elle sera libéré, il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait une honnêteté des gens, ou Veshavea Betzdaka, et ceux qui reviendront à Sion par la Tzedaka, Mitzvah de la Tzedaka. Alors nous, on est au Yémen, on est paumé là-bas, en fin fond du désert, la péninsule arabique, on venait en terre d'Israël, il faut faire beaucoup de Tzedaka. Alors que les riches, il y a qui donnent tout leur argent en Tzedaka. Rabban dit, c'est crétin. D'abord, c'est contre Hazal. Chazal, on dit, celui qui veut donner, qui donne maximum 20%. C'est à ça que la Torah, tenir la Torah, tu gagnes beaucoup parce que tu as un mérite dans la Torah jusqu'à 50%. Mais jamais tout. Et je explique là-bas pourquoi. Parce que maintenant, le riche, il donne tout. Ben, il devient pauvre. Le pauvre qui a tout reçu, il devient riche. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Le nouveau riche, qui était pauvre avant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rendre au pauvre, qui était avant riche. Il devient de nouveau riche. Et maintenant, je suis riche, je dois donner la Torah. Ça ne veut rien dire. On ne devient pas maintenant, Chazal on dit 20% parce qu'on ne veut pas que les riches deviennent pauvres. Parce que de nouveau, ça sera un pauvre de plus pour la communauté. Mais néanmoins, là-bas au Yémen, ça fait beaucoup d'histoires. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit là-bas? Maïmonide était très fin. Il leur a dit, dites au sultan, apprenez-le, emprisonnez-le 2-3 jours chez vous à la maison. Et dites au sultan que c'est un fou, c'est un type, un cas psychiatrique. Parce que si on le tue, il avait dit comme ça, si on le tue, si vous le tuez, il faudrait le tuer normalement. Parce que ce type-là, il est rodef, il est indigne d'assassin, parce qu'à cause de lui, les persécutions terribles peuvent venir contre les juifs. Donc si vous tuez un juif, le sultan va vous condamner à mort. Si vous ne le tuez pas, il va exciter les nerfs du sultan contre vous, et le sultan va venir vous persécuter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le ligoter, le mettre dans un asile de fou, dire qu'il est complètement majnoun, un peu complètement fou, et comme ça, on s'en sort comme il faut. Et le Rambam raconte dans cette lettre-là que lui, quand il est né à Cordoba, à Cordoue, en Espagne, parce qu'on peut le raconter que quelques années avant qu'il soit né, il y a quelqu'un qui s'est pris pour le Messie aussi. Il faisait des miracles, il sautait, il volait comme ça d'un arbre à l'autre, comme ça. Il a dit à tout le monde, Machar, et les gens, ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? ils ont vendu leur maison, ils ont commencé, et tout à coup, il n'y a rien du tout. Et combien de fois nous on entend le Rav Kadouri, il a dit que 7 minutes avant Pessah, le Mashiach va venir, et des trucs, c'est une constante. Là. Alors, nous devons attendre, il y a une mitzvah extrêmement grande. Le Rav Israël a écrit un bouquin entier là-dessus, comment ça s'appelle, Tzipia le Yeshua, qu'on doit attendre le Messie. Une fois le Rav Etzion, je lui ai dit, Mashiach, pourquoi il ne vient pas? Il m'a dit, quand un invité doit venir, on l'attend. Je veux dire, qui l'attend? Qui l'attend? T'as Chabad. Chabad, ils sont convaincus, chaque seconde, il doit arriver. Mort ou vivant, d'accord, mais il doit arriver. Mais à part ça, dans le commun des mortels, il n'y a pas beaucoup de gens qui attendent le Mashiach. Ah, on est bien. Au contraire, j'ai peur, surtout que j'en ai un même le Shiva qui m'a dit, mais non, qu'ils ne viennent pas, je ne suis pas encore prêt. Parce que eux, si on n'est pas encore prêt, alors on doit attendre, tout le monde doit rester encore en galoute. On doit attendre. Bien qu'il se veut qu'au niveau privé, pour nous, c'est pas très bien. Au niveau privé, quand Mashiach revient, qu'est-ce qui se passe? Alors les comptes s'arrêtent. Il y a le mal qui est liquidé et apparition du bien. C'est très bien qu'il y ait le bien. Oui et non. C'est très bien parce que c'est bien qu'il y ait du bien. Mais pour nous, nous perdons tout notre libre arbitre. Tant qu'il y a l'obscurité, Dieu est absent, et moi, malgré tout, je suis un soldat de Dieu, je travaille, je me rapproche de lui, malgré tous les obstacles, et c'est dur, et malgré tout, je tiens bon, c'est une valeur énorme. T'es une bougie en obscurité. Quand t'as une bougie en pleine obscurité, elle éclaire. Mais quand il fait jour, gros projecteur maintenant, fait plein jour, t'allumes ta bougie, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut rien. Donc, on ne pourra plus avancer. Les comptes sont arrêtés. Donc c'est un peu comme le jour de la mort. La mort, qu'est-ce qui se passe? Ton corps disparaît, le mal disparaît, ton âme monte au lamaba, tu vois la lumière, la vérité, Dieu est là, très bien, et tu kiffes. Mais avancer, tu ne peux plus. Quand l'époque messianique viendra, on pourra avancer, mais très très peu. C'est presque comme une mort. Alors pourquoi on doit tellement attendre que le Mashiach il arrive? Parce que nous ne pouvons pas accepter, c'est inacceptable, que le monde soit le règne du mal. C'est une chose qui est inacceptable. Nous devons tendre, parce que nous voulons que le bien gagne. Il y a une guerre entre le mal et le bien. Nous voulons qu'enfin, on arrive à l'achèvement, que le bien se dévoile. Voilà. Et le fait d'attendre, c'est certain que ça fait partie des conditions pour l'amener. Si un invité doit venir, on doit l'attendre.
Vous avez dit hier qu'il y a 500 ans, il n'y aurait eu que 7000 personnes pour l'attendre.
Comme ça a dit Rabbi Moshe Cordovero. Si le Mashiach serait venu il y a 500 ans, il y aurait 7000 personnes pour le recevoir. Tous seraient morts. Parce qu'il y a une facture de galoute.
Aujourd'hui, il en a encore moins. Parce que
le peuple d'Israël.
Il n'y a pas d'assimilation.
Non, il faut comprendre. On est parti en galoute parce qu'il y avait une facture. On est parti en exil parce qu'on s'est mal comporté sur la terre d'Israël. Il y a eu ici des choses terribles. Quand on lit les textes, c'était terrible. D'accord, il y avait... Alors que le temple est présent. La Gemara dans Souka, elle dit que à la fête de Soukhot, les Bnei Israël, pendant la nuit de Souka, quand ils allaient chercher, ils sortaient pour chercher l'eau, ils dansaient vers Dieu, et ils disaient, nos ancêtres se tournaient postérieurs face au sein des saints et faisaient leurs besoins. T'imagines? Ça, c'est le peu. Avec ça, tout le Avodah Zarah, l'idolâtrie, les dénonciations, les meurtres, c'est terrible. Donc, il y avait une facture. Le peuple d'Israël lui-même, ce sont les âmes réincarnées qui reviennent en galoute pour réparer. Alors, il y a une facture qui fait, on va dire, 1000. La galoute en elle-même, le fait d'être parmi des non-juifs, parmi les persécutions, tout ça, ça enlève. Les souffrances, ça enlève. Ça enlève, ça enlève, ça enlève, ça enlève, ça enlève. Maintenant, si tu veux, il te reste encore une facture de 100. Et tu veux maintenant amener le Mashiach alors qu'il y a une facture. Ok, Mashiach. Le mal vient, tu dis, écoute, tu me dois encore 100. Moi, je te prends maintenant 10 millions de juifs. T'es d'accord? Ça compte ça. Ou bien on attend encore plus de temps. Et on souffre encore. Le Rav, on appelle le Rav Esraim d'Amérique. Le patron avant tout. Le Rav Tzrak Yosef, je crois qu'il s'appelait. Tzrak Yosef Herman, grand, grand tzaddik. Il a dit que la Shoah a raccourci la galoute d'au moins 200 ans. La souffrance que nous avons hors Shoah, que ce soit Staline, le KGB, que ce soit Nasrallah, que ce soit Nasser, toutes ces choses-là, Arafat, etc., le Hamas, c'est étalé. Si tu concentres ça en quelques années, ça peut être pire qu'une Shoah. Tu prends la souffrance de 200 ans. Prends la souffrance du peuple d'Israël pendant 200 ans avant la Shoah. Le régime bolchevique avant la Shoah. Les tsars. La révolution russe en elle-même. Les souffrances d'exil dans d'autres pays hors Russie, qui étaient énormes aussi, en Orient, etc. partout. Tu réunis tout ça. Tu prends les Cosaques, tu prends Chmelnytsky, d'accord. Tu prends tout ça, tu les réunis en 3-4 ans, ça fait une Shoah. Donc la galoute, les souffrances de la galoute sont là pour expier, entre autres on va dire, entre autres pour expier ce que nous devons aux côtés du mal, pour les bêtises qu'on a fait maintenant. C'est pour ça que plus la fin de la galoute se rapproche, plus il est facile que Mashiach arrive. Parce qu'il faut qu'il arrive par nous. C'est marqué « Be'ita Achishen ». En son temps, j'accélérerai la venue du Messie. Chazal pose la question. Décide, ou bien le Messie arrive bien en son temps, ou accélérer. Tu ne veux pas en son temps accélérer. Et disent, si Zahou, si on a le mérite, ça veut dire qu'il vient par notre mérite, parce que nous-mêmes on a fait tshuva. Alors Achishena, ça vient avant la deadline, avant la date limite. Et c'est venu par nous. Si ça vient par nous, c'est extraordinaire, parce que nous sommes méritants, donc il y a des miracles, c'est beau, il n'y a pas trop de souffrance, ça c'est bien. Mais si on est des vauriens, hein, et ça vient malgré nous au dernier moment, hein, alors Beïta, ça veut dire au dernier moment, et c'est terrible. Maintenant, la différence qu'il y a entre si ça vient par nous et pas par nous, elle est énorme. Maintenant, les quelques minutes avant que ce soit le dernier moment, c'est très facile que ça vienne par nous, parce que la facture n'est pas grande. Quand tu es beaucoup d'années avant, tu as encore une grosse facture. Ça vient par toi, tu comprends sur quoi tu vas faire tshuva, sur une masse énorme de choses. Mais quand la facture est toute petite, c'est beaucoup plus facile. Oui, il y avait une question.
Ouais, donc, pourquoi est-ce que la galoute, elle a déjà le point de facture, au contraire? Parce qu'on voit les juifs qui sont, par exemple, à Paris, qui vont manger pas cher, mais c'est plus simple pour eux de manger du porc. De manger du porc, c'est le point de facture.
Alors tu poses la question, est-ce que la facture ne fait pas la facture, la galoute ne fait-elle pas augmenter la facture? Peut-être.
La galoute n'est pas un échec, dans le sens où ça aurait donné les gens à faire tshuva rapidement comme dans le premier temple. Et au contraire, là, 7 jours de maintenant, 7 jours de plus que sur le temps qu'on a été.
Même question, tu veux dire donc quelque part Dieu il s'est trompé dans le calcul, parce que au lieu d'avoir une galoute, un exil de 70 ans, et tchik-tchak, on répare, on est depuis 2000 ans, et on n'est pas prêt d'en sortir. Enfin, on espère que oui, mais à vue donnée, il y a l'assimilation, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas là pour arranger les choses. Réponse, Dieu n'est pas là pour arranger les choses. Dieu, il est juste. Et les règles du jeu sont suivantes. Tu dois réparer, c'est toi qui, par ton libre arbitre, qui dois amener le bien dans le monde. Ce sont les règles du jeu. Le monde, il est là pour que toi, tu fasses. Et non moi en tant que Dieu, toi. Maintenant, je te mets en situation de réparation possible qui s'appelle galoute. Sans ça, c'est impossible de réparer. Maintenant, tu te trouves devant des épreuves. Quelqu'un qui a fait une bêtise dans une réincarnation passée. Il se retrouvera forcément dans la réincarnation présente devant la même épreuve. Il y avait une fille, il ne fallait pas la toucher. Ben, cette même fille, avec la même envie, les mêmes conditions, vraiment, c'est du re. On a déjà vu ça. Tu auras, dans l'épreuve, dans les mêmes conditions exactement. Et là, tu dois réussir. Et si tu rates, rebelote. Tu reviendras. On te donne plusieurs occasions. On reviendra sans cesse. On revient pour réparer. Si 3 fois on revient, on n'a rien réparé, alors, chut, liquidé. Mais c'est très rare. On a toujours réparé au moins un peu. Le danger est que lorsqu'on vient pour réparer une chose, des fois, on en gâche 1000. C'est pour ça que Dieu a créé un truc qui s'appelle le hibour. Je vais t'en parler un peu. Par exemple, dans Gilgul Neshama. En tout cas, le principe, avant de parler du hibour, si j'en parle, le principe est que Dieu n'est pas là pour arranger lui. Il fait un tour de abracadabra et tout s'arrange. C'est nous qui devons faire. Alors, où nous faisons de façon intelligente, on se trouve face à l'épreuve. Et on vainque l'épreuve, et là on a réussi. ou l'effort qu'on aurait dû faire pour vaincre l'épreuve, on ne l'a pas fait, alors on le fera par souffrance. C'est les deux solutions qu'il puisse y avoir. Donc si maintenant le peuple d'Israël reste dans la galoute et quitte la Torah à cause de cela, alors il y a toujours la solution possible, qui est la solution négative, qui s'appelle souffrance. Souffrance. Et tu me poses la question, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui quittent la Torah, je te réponds, on voit bien qu'il y a beaucoup de souffrance.
Ah, c'est quand la date limite?
C'est quand la date limite? Si je savais... Personne ne sait. Personne ne connaît la date limite. C'est marqué même que le corps de Dieu ne dévoile pas la bouche de Dieu. Tu vois? Donc même un prophète qui pourrait voir la bouche de Dieu, il ne saurait pas. Personne ne connaît la date limite. Oh, Adonai, l'homme, mais...